RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
Quel bonheur, vous allez comprendre, quel bonheur d'accueillir ce matin Marc Lebris, bonjour.
Bonjour monsieur.
Marc Lebris, vous êtes directeur de l'école de Médréac en Ille-et-Vilaine. Vous enseignez aussi dans une classe à double niveau, parce que dans ces petites écoles, quand on est directeur, on enseigne.
Hein? Oui, là, tous les directeurs français enseignent, sauf les directeurs de Paris Intramuros.
Oui, oui, voilà. Bon. CM1, CM2, 30 élèves.
Oui.
Hein, c'est ça.
C'est ça.
Votre classe à double niveau. Vous publiez Bonheur d'école aux éditions Jean-Claude Gassevitch. Marc Lebris. Ah, je suis content de parler de l'école avec vous parce que vous allez en parler autrement. D'abord, tiens, une petite question sur l'actualité. Vous avez vu qu'en Allemagne, il y a un débat dans une ville importante, ville de 100 000 habitants, sur le nettoyage des classes. La municipalité demande aux enseignants et aux élèves de nettoyer eux-mêmes les classes.
Oui.
Et ça a provoqué une petite polémique, un petit débat dans cette ville. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous faites nettoyer votre classe par vos élèves ?
Non, il y a du personnel municipal qui vient le nettoyer. Et d'un certain côté, c'est une très bonne chose parce que les enfants ne sont pas capables de nettoyer comme des professionnels.
Oui.
Ceci dit, un petit coup de balai avec les chaises sur les tables donné par les enfants avant que le personnel municipal ne passe serait d'abord une preuve de respect pour lui, le personnel municipal. Ensuite, un excellent moyen de se rendre compte qu'on n'est pas là sur une planète où on fait n'importe quoi et où on jette ses papiers et ses crayons par terre.
Donc vous allez le faire ?
Je ne sais pas, je vais en discuter avec le maire parce que... c'est pas... Ça s'est fait longtemps, hein.
Oui.
Les petites écoles rurales qui n'avaient pas de moyens dans les années 50, 60, pratiquaient ce genre de choses. Donc, ça n'est pas possible que ce soit néfaste. Non, ça a beaucoup d'intérêt. Ce qui est vrai, c'est que des enfants à 17h ou à 16h30 sont fatigués et qu'ils ont fait leur journée aussi. Donc, on peut pas faire vraiment professionnellement balayer les classes par les enfants.
Oui.
Mais le petit coup de main qui précède le passage de la femme de ménage, je suis pas contre du tout.
Vous n'êtes pas contre du tout. Bon, Marc Lebris, cette école, je parle de l'école élémentaire, l'école primaire. Hein, on va oublier le collège et le lycée.
Oui.
Restons jusqu'à la sixième. Cette école, tout le monde dit, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien, franchement.
Non, elle ne va pas bien.
Vraiment.
Parce que depuis 30 ans, une sorte de caste bizarre, idéologique, pédagogique, un peu politique, a pris les rênes du pouvoir dans ce ministère. Et depuis 30 ans, nous avons été obligés d'appliquer les mathématiques modernes, la lecture globale, bien que on me dise que c'est pas vrai, mais des lectures où on n'apprend pas les lettres. On a été obligés d'appliquer de la grammaire par l'observation réfléchie de la langue. Tout un tas de concepts éloigné des enfants, éloigné de la réalité enfantine et de la réalité des classes, qui ont fait qu'on en est à un échec, mais au niveau international, c'est-à-dire que notre pays descend.
Mais continue à descendre.
J'espère bien qu'on va se relever, là.
Oui.
J'espère bien qu'on va
se
relever.
Alors, ce livre, c'est aussi cela. Vous n'acceptez pas cet échec.
Non, et je redis, mon premier livre disait que nos enfants ne savent pas lire et que l'école est responsable.
Ça fait beaucoup de bruit, hein,
je me rappelle,
de Marc Lebris. Ça fait beaucoup de bruit.
On a marché au milieu du seau d'eau et ça a éclaboussé. Il était le temps de le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça aille mieux?
Oui.
Mais je vais vous dire ce qu'on fait dans beaucoup d'écoles, parce qu'il faut les enseignants, c'est des gens en général très dévoués, hein. Mais si on peut se libérer de cette doxa, de cette imposition, on peut arriver à enseigner tout simplement les choses élémentaires en prenant des précautions professionnelles, c'est-à-dire que il faut pas faire tout de suite le complément d'objet direct si on n'a pas étudié l'attribut avant. Vous voyez, c'est très technique à un moment donné, mais si on fait des choses progressives qui se suivent les unes les autres, si on utilise une méthode alphabétique où on apprend les lettres en les écrivant à la main quand on est tout petit, quand on a 5 ans, alors les choses se passent facilement, le taux d'échec descend, les taux de réussite augmente et tout le monde est heureux.
Oui, retour à plus de simplicité.
Simplicité, il n'y a pas eu.
Oui.
On nous a fait croire qu'il y avait une science de l'enseignement et on a donc eu des nouveaux prêtres qui sont venus nous expliquer qu'on savait tout enseigner, qu'on avait la technique générale. Or, c'est pas vrai. On a des enfants très différents dans les classes et on a on n'apprend pas la division comme on apprend à lire, comme on apprend à dessiner. Et le résultat de tout ça, c'est que tous ces apprentissages-là, les uns après les autres, ont baissé dans les résultats obtenus.
Oui. Alors, je lis un extrait. Tout passe par la lettre. à propos de l'orthographe
et de l'écriture.
Tout passe par la lettre. Il faut privilégier la lettre. Il faut qu'elle soit dans leur œil. Et pour y arriver, cela passe par le corps. L'œil de l'enfant, évidemment. Cela passe par le corps, par le bras, la main, les doigts. Il faut savoir écrire les lettres une à une pour pouvoir les reconnaître au premier coup d'œil, avant d'entrer au CP. Ensuite, la classe du CP systématise et fait apprendre encore et encore, toujours en alternant écriture et lecture, toutes les associations de lettres, si possible dans des mots et dans des phrases qui ont un sens, mais aussi en exerçant les élèves au système alphabétique par des exercices systématiques de syllabes artificielles lues et écrites.
Tout à fait. Je vous remercie de prendre ce passage-là.
Ben non, mais vous voyez, j'ouvre page 81. Au hasard, Marc Lebris, au hasard. Ce qui prouve bien le côté pratique de votre livre, Marc Lebris, qui s'adresse aux enseignants et aux parents. Et c'est ça qui est important.
Oui, il s'adresse aux parents. Il y a un collègue qui m'a reproché l'autre jour, il m'a dit « Mais les parents vont prendre ton livre, vont venir nous demander des comptes. » Alors, cher collègue, si c'était mes enfants et que je les mettais dans ta classe, oui, j'irais demander des comptes. On apprend à lire une fois, et il faut que ce soit bien fait. Vous savez, les bourgeons du printemps qui sont en train de s'ouvrir en ce moment, ils s'ouvrent une fois. Et s'il y a une gelée à ce moment-là, eh bien, la règle, c'est foutu, il n'y aura pas de fruits. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse très attention à nos fruits les plus précieux, que sont nos enfants qui sont dans les classes. Et donc, cette éclosion, cette ouverture du bourgeon qu'est la lecture, doit se préparer avec un soin méticuleux et avec la plus grande intelligence humaine possible. Et c'est une affaire drôlement importante parce que c'est l'avenir des pays, c'est l'avenir des nations et c'est l'avenir individuel des enfants.
Donc on apprend d'abord à connaître les lettres.
D'abord les lettres. Et alors, comme nous sommes petits, les lettres, ça passe par le corps, ça passe véritablement par le bras, ça passe par les sens. Voilà, avant d'aller à l'intellect, il faut passer par le corps. Il n'y a pas de... Tous les grands pédagogues l'ont reconnu. Et ça, ça a été bafoué. On est passé à des tactiques hallucinantes. Hein. Vous ne me croiriez pas si je vous racontais tout ce qu'on a fait faire à l'éducation nationale dans les classes de petits pendant 15, 20, 30 ans.
Ouais. Marc Lebris, c'est la même chose pour le calcul, les mathématiques ?
Oui. Il y a une notion de progressivité qui est phénoménale. Oui. Il y a des choses qui doivent être forcément progressives. Il y a des notions qui sont très complexes à acquérir. Par exemple, le fait que le chiffre écrit à gauche des unités représente les dizaines et qui pèse 10 fois plus lourd. Oui. Ça, c'est une complexité pour des enfants qui, en réalité, ne comprennent pas encore droite-gauche. Oui. Et donc, il faut en même temps reconnaître droite-gauche et se rendre compte que... Donc, il y a là des progressions qu'il faut établir, qui avaient été établies par les instituts des années 50. Mais cette expérience-là, qui était toute simple et toute bonhomme et toute artisane, a été renversée par des faux spécialistes. Et nous sommes dans la panade.
Alors, vous évoquez aussi l'autorité des parents. Vous écrivez, je vous en prie, chers parents, pour leur bonheur de fond, dites non à vos enfants lorsque c'est nécessaire. Ils vous en seront reconnaissants longtemps, même s'ils sont un peu fâchés sur le moment. Leur vie sera meilleure.
Oui, j'en suis sûr. Les enfants ont besoin de notre autorité, comme le bébé a besoin de son biberon pour boire. Sans notre autorité, ils essaient de passer devant nous. Ils ont des caprices. C'est légitime. Comme vous, comme moi, ils veulent des choses. Mais ils veulent des choses quelquefois que papa et maman ne veulent pas. Ils veulent ne pas aller se coucher, rester avec vous. Mais ils ont besoin de cette nuit de sommeil. Et qui est responsable ? Qui peut diriger ces choses-là? Eh bien, les parents. Et donc, quand les enfants demandent à rester et les parents disent non, ils vont se coucher. C'est tout simple et ça leur fait un bien fou, d'abord pour leur santé. Ensuite, ça leur évite de venir se placer au-dessus de nous. Au-dessus de moi, il y a mon père. En réalité, il y avait mon père. Et maintenant que moi, je suis au-dessus, je sais ce que j'affronte dans l'avenir. Si je laisse les enfants petits qui me sont confiés passer au-dessus de moi, devant moi, alors c'est eux qui vont affronter la liberté du futur. Et la liberté du futur, nous savons ce que c'est.
Alors vous dites, les petits ont un besoin physique de développement intellectuel.
Oui.
Ça, c'est très très intéressant.
Je suis persuadé de ça. Oui. C'est la particularité de l'homme que d'avoir, de s'appuyer sur une partie intellectuelle du fonctionnement de la vie.
Mais moi, j'en suis persuadé aussi.
Oui. D'où, en référence avec cette insistance sur les lettres et sur le fait qu'il faut les tracer à la main, parce que ça passe par le corps, et c'est quasiment un besoin physique. Et si nous ne leur apportons pas cette formation intellectuelle, nous les mettons en souffrance physique.
Alors, on a beaucoup parlé du désengagement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Hein. L'enfant roi, vous le constatez même dans une petite école comme cela.
Oui, ça dépend des parents.
Vraiment ?
Oui, on le constate, oui.
Vraiment ? Les parents se déchargent sur vous ?
Moi, je n'en veux pas aux parents.
Oui.
On leur a expliqué des éléments théoriques de pédagogie et d'éducation qui s'avèrent être faux quelquefois, ou pour le moins très dangereux. Disons que au moins, Françoise Dolto a été très mal lue par certains des éducateurs qui ont répandu les théories éducatives. Très mal lue. Et il y a beaucoup d'enfants qui en ont souffert, et des parents qui en souffrent terriblement aussi, parce que si vous ne savez pas dire non à votre bébé, il va vous commander toute son enfance, et il va vous commander comme un enfant, c'est-à-dire
bien
de façon irrésolue et irréfléchie.
Irréfléchie, oui. Et les parents viennent vous voir en vous disant monsieur le directeur, je n'y arrive plus avec mon enfant, qu'est-ce que vous pouvez faire
la semaine dernière.
Ils demandent conseil la semaine dernière.
La semaine dernière, oui.
Tous les jours, vous
la
avez
la maman qui vient demander, mais comment vous faites pour que tel prénom obéisse ou fasse ceci avec moi?
La maîtresse essaye
de donner les tuyaux, leur dire, mais voilà. Et la question clé, elle est là, c'est qu'il faut savoir dire non.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce sont des méthodes. Finalement, on va vous dire, j'imagine qu'on vous dit déjà, Marc Lebrun, c'est un conservateur, un traditionnaliste.
Oui, c'est ce que Sylvain Grandserre dira tout à l'heure.
Non.
Mais non, je suis une des premières écoles informatisées de France. J'ai un grand écran au-dessus de mon tableau qui affiche des règles de grammaire ou le portrait de Louis XIV. Enfin, la modernité n'a rien à voir avec l'efficacité. Il y a des éléments de la modernité qui sont utiles et que j'utilise évidemment. Et par contre, là où je me bats contre la modernité, c'est quand elle a été bête et inefficace. On a eu 30 ans de propagande pour nous dire qu'il fallait enseigner comme si et non pas comme ça. Moi, je dis simplement, ce qu'on vient de faire en enseignant comme si était mauvais. La preuve, nous sommes au fond des résultats. Nous sommes au bas des courbes de résultats. Alors, enseignons comme ça. Et ils me disent, c'est passéiste, parce que ça a été fait avant. Non,
passéiste.
Non. On a eu une nouveauté qui s'est installée politiquement après les années 50, disons après 68, en 70, qui a pris l'éducation nationale et qui en a fait une éponge à échec.
Comment insuffler l'idée aux enfants que le travail est un cadeau? Je vois, vous l'écrivez, c'est important.
Oui, le travail est un cadeau.
Le
travail est un cadeau, quelquefois, pas toujours, mais le travail est un cadeau. Monsieur Bourdin, où avons-nous le plus de plaisir, nous, à
bien sûr, bien sûr.
La réussite et la satisfaction d'un travail bien fait est un véritable cadeau de la vie. Et les enfants petits ne peuvent pas l'avoir tant qu'on ne les a pas amenés à réaliser eux-mêmes des travaux et leur avoir donné les moyens de bien les mener. Et donc, il faut qu'on les ait préparés sur quelque chose qu'ils peuvent faire, mais qu'ils l'aient fait à un moment donné tout seul. Ça s'appelle des exercices après la leçon.
Et tous les enfants qui n'arrivent pas à suivre, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont abandonnés, ces enfants?
Non, alors il y a deux choses. Ça, c'est la question difficile.
Oui.
C'est les 5% ou les 3% des enfants pour lesquels on n'arrive pas, de même en médecine, de même dans tous les domaines. Et cela nous coûte cher à tout le monde, à leur famille.
Bien sûr.
Et ils méritent notre intérêt, notre attention. Il y a des dispositifs, vous savez que ce ministre a sorti une demi-heure par jour pour s'occuper de deux ou trois enfants par classe, par instituteur. Oui. Il y a d'ailleurs des collègues qui n'ont pas voulu le faire et c'est idiot, c'est le cœur du métier. C'est-à-dire que ce sont ces trois enfants-là qui, pendant une demi-heure de plus, vont pouvoir refaire ou préparer ce qu'on fera demain parce qu'ils ont plus de difficultés. Et en laissant la bride sur le cou aux enseignants pour juger de qui, de quoi et de comment. Et ça, c'est peut-être efficace. Mais ça ne guérira pas tout, vous savez, il y a de la misère sur Terre, et y compris chez les enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous? Il y a déjà une chose sur laquelle il va falloir intervenir. C'est qu'il faut arrêter, malgré tout ce que je viens de dire là, de dire, a priori, tout le monde a tout bon, tout le monde réussira tout, toujours, parce que ce n'est pas vrai. Il faut donc que l'école dise à un moment donné, écoute mon grand, tu n'as pas assez travaillé, ce qui est souvent le cas. Alors, on va recommencer une fois où on va trouver une solution de remplacement. Je veux dire que les interdictions de redoublement qui existent dans certains départements de France actuellement sont une ineptie parce que chaque enfant est unique et pour chaque enfant, il peut y avoir des décisions qui lui seront bénéfiques à lui et qu'un redoublement d'élèves petits ne coûte pas cher. Je dis ça pour Bercy parce que c'est là que ça freine. Ils ont toujours peur si on se met à faire redoubler des dizaines d'enfants. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Chaque enfant est un cas particulier et il faut faire confiance aux enseignants en leur accordant cette liberté d'enseigner et d'avoir des résultats qui peut passer quelquefois par ces mesures difficiles à prendre, mais où on arrête de dire le faux.
Marc Lebrun, bonheur d'école, Jean-Claude Gavsevitch, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est passionnant. Il est toujours passionnant, Marc Lebrun.